dans le psaume 46. Voilà, au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà, ce psaume 46 est, peut-être le savez-vous, l'un des favoris du réformateur Martin Luther. À partir de ce psaume que Luther a composé, ce cantique que nous chantons parfois, dont les paroles en français disent « c'est un rempart que notre Dieu ». Le psaume 46 a été composé par les fils de Corée, très certainement de lointains descendants du Lévite, Corée, qui avait participé à la révolte contre Moïse et à Aaron dans le désert. Contrairement à Corée, ses descendants reçoivent un témoignage favorable de l'Écriture, puisqu'ils sont décrits comme des hommes fidèles, engagés dans le service des chants et de la musique, tel qu'il existait sous l'ancienne alliance. Aucune indication n'est fournie quant à au moment où ce psaume a été composé. Il est manifeste cependant que ces paroles ont été écrites alors que le peuple d'Israël, ou plus précisément le peuple de Juda, c'est-à-dire les tribus du Sud, puisqu'il y est question dans ce psaume de Jérusalem, la capitale du royaume du Sud, bien, ces paroles ont été écrites alors que le royaume de Juda était en butte à une attaque massive de ses adversaires. Voilà pourquoi, dans la première partie du psaume, il est question de grands bouleversements, de grands dangers, des montagnes qui chancellent elles-mêmes, qui sont comme jetées au fond des mers. C'est une image, nous y reviendrons, qui nous parle d'un danger extrême, d'un bouleversement que traversait et épouvantait le peuple de Juda. Il est même probable que Jérusalem, cette ville qui est décrite dans ce psaume, ait été soumise à un siège. Alors, pour cette raison, les commentateurs de la Bible pensent que ce psaume a pu être composé très probablement à deux périodes, à l'une de deux périodes. Certains pensent que ce psaume a été composé alors que Jérusalem était assiégée par le roi d'Assyrie, Sanchérib, et par son principal officier, Rabshaké. C'est un épisode notable qui nous est rapporté trois fois dans l'Écriture. Nous trouvons le récit de ce siège dans le livre d'Ésaïe. Nous le trouvons aussi dans le livre des Rois, dans le deuxième livre des Rois, dans le second livre des Chroniques. Et cet épisode s'est produit alors que c'est Ézéchias qui régnait sur Juda. Ou alors, d'autres pensent que ce psaume a été composé alors que le roi Josaphat régnait, c'est donc avant le roi Ézéchias, sur Juda, et que, comme l'Écriture nous le rapporte dans le second livre des Chroniques, bien, la ville de Jérusalem a été menacée par une coalition de peuples, les Ammonites, les Moabites, les Maonites. Cette coalition produisait un peuple innombrable qui menaçait, voyez, le royaume de Juda, alors que Josaphat était roi. Dans les deux cas, le peuple qui était assemblé contre le peuple de Juda était immense, Et humainement parlant, il n'y avait pas d'issue possible. La défaite, la destruction même, semblait inéluctable sur le plan humain. D'où les paroles de ce psaume, particulièrement au début. Dans les deux cas, quel que soit le moment exact où le psaume a été composé, dans les deux cas, les rois qui régnaient sur Juda, que ce soit Ézéchias ou Josaphat, étaient des hommes pieux, des hommes de foi. Et ils ont connu des moments de crainte, des moments d'ébranlement, mais se sont tournés vers Dieu. Ce qui est remarquable, c'est que dans les deux cas, que ce soit dans l'affaire du siège de Jérusalem par les Assyriens, ou dans le cas de la menace du peuple de Juda par la coalition des peuples, dans les deux cas, Dieu a parlé. Dieu a parlé par un prophète. Dans Ézéchias, Dieu a parlé par le prophète Ésaïe. Du temps de Josaphat, Dieu a parlé par le prophète Zacaziel, et Dieu est intervenu. Et dans les deux cas, bien ce peuple qui était menacé a trouvé une glorieuse délivrance. Il a reçu la victoire, non pas par ses forces, non pas parce que les forces militaires de Juda étaient plus importantes, mais parce que Dieu est intervenu dans la bataille. En réalité, certains événements... Une précision particulière, là, dans l'Écriture, tente à faire pencher, voyez, la balance pour l'hypothèse que ce psaume, après tout, a été rédigé, a été composé lors de cette grande coalition des peuples qui s'est formée contre le royaume de Juda. Tenez, nous pourrions lire simplement cette précision dans le second livre des Chroniques, au chapitre 20, et à partir du verset 17. Second livre des Chroniques, chapitre 20, et à partir du verset 17, voilà, ce sont les paroles de Jacaziel, ce prophète qui a annoncé la délivrance. Jacaziel avait dit à Josaphat et au peuple, « Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas, demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Puis écoutez bien, les Lévites, d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites, vous voyez les fils de Corée, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, donc c'est ce verset sans trancher, eh bien, semble indiquer que c'est bien à cette occasion que les fils de Corée, les Coréites, se sont levés. Le prophète venait d'apporter la parole, la promesse de la part de Dieu que, devant cette immense multitude rassemblée devant le peuple, Dieu interviendrait pour les délivrer. Quoi qu'il en soit, bien, ce psaume, on peut l'appliquer au grand bouleversement. Grand bouleversement auquel l'Église a toujours été confrontée, ne manquera pas d'être confrontée jusqu'au retour du Seigneur. Tenez, on peut l'appliquer à cette situation de pandémie. Voilà, la terre est comme bouleversée. Nos repères sont chamboulés. Et ce psaume, eh bien, il nous enseigne, il nous parle, il nous apporte de l'espérance. Première pensée qu'on peut dégager de ce psaume, cette composition, bien, c'est qu'il y est question, effectivement, d'une situation, redoutable, une situation inimaginable. Vous voyez, la terre est bouleversée. Et les montagnes chancellent au cœur des mers. Une situation qui dépassait, qui pouvait imaginer tout ce qu'on pouvait imaginer. Finalement, à travers ce verset, on voit que la situation auquel le psalmiste était confronté, les psalmistes, bien, était-elle que les bases, les fondements, les repères les plus fixes, qui semblaient les plus permanents, étaient complètement bouleversés. Quand le psaume dit « les montagnes chancellent au cœur des mers », ça veut dire littéralement que les montagnes étaient précipitées au fond des mers. Les montagnes, vous voyez, on a l'habitude, quand on se lève, elles sont là, elles ne varient pas. De temps en temps, un nuage les voile, mais on sait qu'elles sont présentes. Et imaginez que ces montagnes soient précipitées au fond des mers. Ça veut dire que ce qui est le plus permanent disparaît. Ce qui est le plus permanent est bouleversé, une véritable révolution, une commotion bouleverse nos repères les plus apparemment établis. Et ça nous amène à prendre conscience que parfois les événements peuvent évoluer de manière que nous ne l'avions pas même imaginé. Des choses qu'on n'imagine pas. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années encore que la Terre traverserait ce qu'elle traverse, que le monde vivrait ce qu'il vit. Vous voyez, ce n'est pas parce que l'imagination des hommes n'est pas capable de produire quelque chose que cette chose ne peut pas se produire. Et dans l'avenir, pour nos vies, pour l'avenir de l'Église, même, il est possible que nous soyons confrontés à des situations que l'on n'imagine pas même. Voilà, évidemment, quand nous y sommes, bien il y a une crainte légitime, un ébranlement. C'est ce qu'avait vécu le peuple de Juda. Puis dans l'éternité, voyez, car vient un jour où toute âme d'homme basculera dans l'éternité. Tous nos repères s'évanouiront. Ce qui nous semblait le plus permanent, les ressources sur lesquelles aujourd'hui nous tablons comme permanentes, que nous regardons peut-être comme essentielles, elles passeront. Et Dieu dit qu'un jour encore, il ébranlera non seulement les cieux, mais encore les cieux et la terre. Et vient un jour où les repères que nous regardons comme les plus permanents disparaîtront, seront balayés. Aussi, dans les situations que Dieu permet, il nous amène à réfléchir et aux choses les plus importantes, aux choses véritablement permanentes. Les choses de la terre, elles sont importantes. Dieu les a créées. Il nous donne toutes choses en abondance pour que nous en jouissions. Mais elles ne sont pas éternelles. L'herbe sèche, la fleur tombe, c'est la parole de Dieu. Les choses de Dieu, les choses du ciel qui sont éternelles et vers lesquelles Dieu nous dit qu'il nous faut tendre. Car les choses de la terre, même apparemment les plus permanentes, même les plus solides, peuvent être bouleversées. Puis ce psaume, les paroles que le Saint-Esprit inspire au fils de Corée dans cette situation inimaginable, redoutable, nous amène aussi à être conscients, à réfléchir au fait que les événements de ce psaume, les événements que nous traversons, se produisent par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui, confronté à des événements qui le dépassent, qu'il n'avait pas lui non plus imaginé, c'était la prise, la capture, la destruction des murailles de Jérusalem. Le Saint-Esprit va lui inspirer, lui aussi, à Jérémie, cette parole « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée ?» Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonnée ? Le verset 4 que nous avons lu, en réalité, dans certaines versions de la Bible, est rendu de la manière suivante. « Quand les flots de la terre mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, quand ces eaux mugissent, qu'elles écument, que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. » Voilà, une version juive nous donne également cette traduction. « Dussent les flots gronder et bouillonner, les montagnes trembler, quand il entre en fureur. » Vous voyez, le psalmiste, en quelque sorte, reconnaissait que dans cette situation redoutable, inimaginable, il y avait la main de Dieu et même il y voyait un jugement de Dieu. Vous voyez. Et c'est vrai que si le Dieu qui se révèle dans l'Écriture est un Dieu d'amour, il est amour, écrit l'apôtre Jean. Dieu est aussi un juste juge. Il juge le mal. Il juge le mal. Et vient un jour où Dieu jugera le monde. C'est le Seigneur qui nous parle du jugement, à veut dire du jugement dernier. L'apôtre Paul, ce témoignage est unanime. Nous parlera du jour où Jésus-Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ même les actions secrètes des hommes. Et encore, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous parle de ce grand trône blanc qui sera dressé et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Les jugements que Dieu permet dans le temps présent doivent nous amener à réfléchir et à considérer la perspective du jugement à venir. Alors que le jugement dernier sera définitif, il sera irréversible. pourra plus revenir. Il n'y a plus de retour après ce jugement-là. Bien, les jugements que Dieu exerce sur la terre aujourd'hui permettent une possibilité de retour, permettent une possibilité de changement. Dieu, dans son amour, permet parfois que ces jugements s'exercent à présent pour nous permettre de nous préparer au jugement à venir. C'est pourquoi l'Ecclésiaste, par exemple, dira au jour du malheur, « Réfléchis, invoque-moi au sein de la détresse. » Prions pour que, dans les temps que nous traversons, des hommes et des femmes, plutôt que de se détourner de Dieu, de le rendre responsable de leurs maux, de lever le poing devant lui, eh bien, se détournent du mal, cherchent auprès de Dieu le salut, entendent l'appel qui émane de l'Évangile. « Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. » Mais puisque ce psaume nous parle de la cité de Dieu, de cette ville de Jérusalem qui est au centre de ses desseins. Bien, ce psaume nous amène à considérer particulièrement les jugements de Dieu lorsqu'ils s'exercent sur l'Église. C'est l'apôtre Pierre qui dira « Le moment est venu où le jugement commence par la maison de Dieu. » Et Dieu permet parfois que son jugement se manifeste dans la vie de ceux qui lui appartiennent, précisément parce qu'il leur porte de l'importance. Et c'est à nous de le mettre à profit. Les prophètes ont tous prophétisé, et pendant les temps où les jugements de Dieu s'exerçaient, leurs paroles interpellaient le cœur et la conscience d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers lui, d'Israélites qui ont cherché Dieu, qui sont revenus à lui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses sentiers et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qu'il revienne à Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dans ce temps si particulier, où nos repères sont bouleversés, où ce que nous regardions comme permanent, nos montagnes sont comme précipitées au fond des mers, mais Dieu te parle. Dieu aimerait t'amener à te détourner, à saisir l'occasion qu'il se donne pour te détourner de telle habitude, telle pratique qu'il désapprouve, de tel péché, de telle pratique qu'il condamne et à laquelle tu t'es livré. Dieu t'appelle à t'en détourner. Dans ce temps si particulier où notre âme peut être troublée, Dieu appelle quelqu'un à revenir à lui, à nouveau se mettre à le chercher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu parle du sein de la tempête. C'est Job qui l'a dit, ça, du sein de la tempête. Dieu lui a parlé. Et ceci nous amène, voyez-vous, après avoir considéré cette situation inimaginable, redoutable, à considérer ce que le psaume nous rapporte sur le secours de Dieu. Car il y a eu un secours. Il y a eu un secours. Verset 6, les fils de Corée se sont exclamés, « Dieu est au milieu de la ville. » Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et c'est à dessein que j'ai laissé de côté le verset 5, parce qu'avant de parler du secours de Dieu, ce psaume, n'est-ce pas, nous révèle une chose. Il nous parle d'un fleuve. Vous voyez, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alors, la cité de Dieu, c'est Jérusalem. Ce n'est pas une image fréquente de l'Église. On a l'habitude de considérer les images du Nouveau Testament. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est la maison de Dieu. Mais c'est aussi, vous voyez, Jérusalem, un type de l'Église, la cité de Dieu, la ville de Dieu, l'organisation des hommes où Dieu fait sa demeure, où il se manifeste et où il agit. Il y avait un fleuve qui apportait le repos, la tranquillité, la vie. C'est l'image que les fils de Corée apportent lorsque les prophètes, que ce soit Ésaïe ou Jacaziel, si l'on a affaire à ce qui s'est passé du temps de Josaphat, voyez, on criait à Dieu, et Dieu leur apporte la promesse d'une délivrance. Voilà, il y a cette grande multitude, il y a cette situation qui te dépasse, mais Dieu dit, moi je vais intervenir. Et il disait par Jacaziel, voyez, engagez-vous dans le combat, mais ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et cette parole, cette simple parole, on va y revenir, avant même que le combat ait lieu, ça a rempli le cœur du peuple d'assurance, ça leur a ramené dans la paix, ça les a ramenés dans un état de sérénité intérieure, et les fils de Corée se sont mis à bénir Dieu, à louer l'Éternel avec les chants, les instruments tels qu'on en jouait sous l'Ancienne Alliance. Il y avait là toute cette organisation des chantres et des musiciens, et ils ont produit ce psaume. Ils ont produit ce psaume, c'est glorieux ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette cité de Dieu? On l'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fleuve? Qu'est-ce que c'est que ce fleuve? Le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Beaucoup pensent qu'il y a là une allusion au cours d'eau, vous voyez, qui conduisait au réservoir de Siloé. Réservoir de Siloé. Il était alimenté, ce réservoir de Siloé, c'est à peu près le seul point d'eau dans Jérusalem. Il est alimenté par des cours d'eau, notamment qui venaient de la source de Guillon, qui prenait sa naissance dans la vallée du Cédron. Et de quoi ça nous parle, ça? Ça nous parle de Jésus-Christ. Ça nous parle de Jésus-Christ, souvenons-nous. C'est l'évangéliste Jean qui nous rapporte ce qui s'est produit alors que on a passé devant un aveugle de naissance et on disait, mais qui a péché? Est-ce lui ou sa famille pour qu'il soit né aveugle? Le Seigneur va dire, non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et ému de compassion, le Seigneur s'est approché, il a fait de la boue avec la poussière de la terre, il a mis ça sur ses yeux et il a dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et c'est l'évangéliste Jean qui nous apporte cette précision, que ce nom de Siloé, ça signifie « envoyé ». Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas en vain, il y avait une signification. Ce réservoir de Siloé révélait que Jésus est l'envoyé de Dieu. Vous voyez, ces eaux, ces fleuves, bien nous parlent pour nous de la nécessité de nous souvenir toujours de Jésus-Christ. « Souviens-toi de Jésus-Christ », dira Paul à Timothée. Vous voyez, dans nos difficultés, dans les situations qui nous effraient, dans les situations qui dépassent notre entendement, notre imagination, souvenons-nous de Jésus-Christ. Souvenons-nous que c'est par lui que nous pouvons venir à Dieu, trouver le secours, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce que nous sommes, non pas à cause même de notre propre démarche, mais c'est à cause de Jésus-Christ que Dieu est capable de nous secourir. Ce cours d'eau, ce fleuve, il nous parle aussi de la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Il nous est révélé de Jésus-Christ qu'il a aimé l'Église, qu'il s'est donné lui-même pour elle, pour la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et ces fleuves, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, eh bien, ça nous parle aussi de l'Écriture. Alors, lorsque l'on est terrifié, lorsqu'on est dépassé par les événements, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut se plonger dans l'Écriture. Il faut la laisser nous parler. Et lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, lorsque la terre est bouleversée, hein, que les montagnes s'agitent, sont comme précipitées au cœur des mers, on n'a plus de repère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a un repère qui demeure, c'est la parole éternelle du Seigneur. C'est l'Écriture. Et elle est toujours capable, voyez, de nous remettre les idées en place. Elle est capable de diriger nos pensées, nos raisonnements, notre foi, nos choix vers ce qui est bon. Elle est capable de nous blesser parfois. Elle est comme l'épée tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sonde, elle juge les pensées, les sentiments du cœur, et parfois elle fait du remue-ménage, elle purifie, elle tranche en nous, voyez, elle amène à la surface ce que même nous ignorions, que nous ne voulions pas voir. Elle nous conduit à Jésus-Christ. Elle nous conduit à Jésus-Christ qui est lui le grand souverain sacrificateur capable de purifier, de laver, de nous donner de triompher. C'est la parole éternelle de Dieu qui nous lave, qui nous purifie. Et c'est vers cette parole que Dieu nous conduit quand tout est bouleversé. C'est là que nous trouvons la purification, mais aussi le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Voilà, le cœur peut être blessé pour un temps par la parole de Dieu, mais Dieu dit, je fais la plaie et je la bande. Il blesse et il guérit. Et dans sa parole, dans la sainteté vers laquelle elle nous conduit, il y a le repos et il y a le secours, la délivrance. On pourrait parler aussi de ce fleuve de l'esprit. Vous voyez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, dit le Seigneur, le dernier jour de la fête, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On pense à la vision d'Ézéchiel, voyez, qui voit là dans cette vision de l'avenir sortir de dessous l'autel, de dessous le temple, ce fleuve dans lequel il va perdre pied. C'est le fleuve de l'Esprit. C'est un écho de ce fleuve de l'eau de la vie que l'on voit dans la cité de Dieu. Vous voyez, tout se tient dans l'Écriture. Dernier chapitre de l'Écriture, chapitre de l'Apocalypse, bien, voilà, le Saint-Esprit quand il agit. Alors vous allez dire, mais est-ce qu'on n'extrapole pas un peu, là, hein? Vous nous parlez de Dieu, vous nous parlez de sa parole, vous nous parlez de l'Esprit, est-ce que c'est vraiment tout ça dans ce psaume? Mais oui, la parole de Dieu nous conduit à Jésus-Christ. La parole de Dieu, lorsque nous la méditons, que nous avons à cœur de nous laisser enseigner et conduire par elle, c'est elle qui nous conduit dans la vie de l'Esprit. Il y a parfois des gens qui disent « l'Esprit m'a conduit, Dieu m'a dit », et puis ils font tout l'inverse de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible, ça. Hein? Parfois d'autres disent « mais moi, je veux vivre la vie de l'Esprit, ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'Esprit, oui, mais c'est l'Écriture ». Nous en ouvre le chemin. C'est l'Écriture qui, lorsqu'elle est reçue avec foi, lorsqu'elle nous conduit vers Jésus-Christ, nous permet de vivre, d'être conduit, d'être saisi par le bon esprit que Dieu nous a donné pour nous rendre sages. Voilà, cette source dont les courants réjouissent la cité de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lui qui disait, par la bouche du prophète Jérémie, qu'il est la source d'eau vive. Et c'est lui qui est capable de nous secourir dans les détresses, lorsque la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent même au cœur des mers. Il est un refuge et un appui pour ceux qui se confient en lui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi il est important pour nous de ne pas, alors que tout est bouleversé, chercher notre secours ailleurs qu'en Dieu. Ne pas chercher notre délivrance dans les choses, les valeurs, les ressources terrestres. Tenez, lisons un dernier texte dans le livre du prophète Ésaïe, puisque nous parlions de ce prophète. Ésaïe chapitre 8, et à partir du verset 6. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 6. Voilà, le prophète Ésaïe, chapitre 8, et à partir du verset 6, une situation un peu comparable à celle qui est décrite dans ce psaume 46. Ésaïe, chapitre 8, verset 6. Voilà, le peuple était menacé, là encore, par des peuples, le peuple de la Syrie, le peuple d'Israël, dans une guerre fratricide. Une coalition à nouveau menaçait le peuple de Juda. Et Ésaïe chapitre 8, verset 6, l'Éternel me parla encore et il me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout autour de son lit, etc. C'est une constante dans le livre d'Ésaïe. Vous voyez, Dieu parle comme s'il cherchait là, à parler au cœur du peuple pour l'amener à venir à lui, à revenir à lui, même à travers le jugement. Et le peuple, sans cesse, que ce soit là, à travers le roi Akaz ou ceux qui lui ont succédé, sans cesse cherche la délivrance ailleurs. Cherche la délivrance auprès des peuples de ce monde, cherchera notamment la délivrance auprès de l'Égypte, de la Syrie. Et Dieu va dire, mais non, il ne faut pas mépriser ces eaux de Siloé qui coulent doucement. Il ne faut pas chercher votre secours là auprès des peuples de l'Égypte avec ses grands fleuves, le Nil. Non, et ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que lorsque nous sommes en butte, à des difficultés, lorsque tout s'ébranle. Bien, il ne faut pas, si nous sentons que Dieu nous parle, si nous sentons que Dieu conteste avec nous, il ne faut pas chercher le secours, il ne faut pas tenter de trouver une délivrance dans les ressources du monde. Parce que là, il n'y aura pas de délivrance. Non, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. Et Josaphat, plus tard Ézéchias, quand les prophètes ont parlé de la part de Dieu et qu'ils ont annoncé que c'est lui qui était capable de les délivrer, ils l'ont cru, se sont confiés en lui. Et ils ont reçu, ils ont vu la délivrance. Je termine en parlant très brièvement de l'intervention de Dieu lui-même. Ici, elle est chantée, elle est célébrée dans le reste du psaume, à partir du verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure, et vous le remarquez, elle est chantée, elle est célébrée, elle est psalmodiée avant même que la bataille ait eu lieu. Hein, en tout cas, si ce psaume-là nous ramène vraiment à cette coalition des peuples qui s'était formée contre Juda à l'époque de Josaphat. Vous voyez, Dieu est capable, bien sûr, de changer les situations. Un mot de lui et nos situations peuvent être changées, transformées. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Mais parfois, le plus important encore que le fait de voir la situation changer, eh bien plus important, c'est de recevoir l'aide de Dieu au fond du cœur, au fond des pensées. Avant même que l'affrontement des armées ait lieu, vous voyez, le cœur du roi, le cœur des fils de Corée, le cœur du peuple retrouve la sérénité, la paix, le repos. C'était le plus important de tout. C'était le plus important. Ils étaient agités, ils étaient là, ébranlés, montagnes chancelées. Ils avaient besoin de retrouver la paix. Dieu un jour rétablira toutes choses. L'Écriture nous parle du rétablissement de toutes choses. Dieu est capable de rétablir la situation sur la terre. Mais le plus important pour nous, est aujourd'hui de trouver dans notre cœur la paix de Dieu, le repos de Dieu. Ces fleuves qui coulent, dont Dieu arrose la cité, ceux et celles qui portent son nom. Il y aura encore des luttes à livrer sur la terre et Dieu nous secourra. Le plus important, c'est de trouver la paix, le repos en lui. Lavez-vous. Si quelqu'un ne l'avait pas ce matin, n'aimeriez-vous pas venir au Dieu qui donne la paix, revenir à celui qui restaure, qui est un refuge, un appui, un secours qui ne vous fera pas défaut au jour de la détresse. Ensemble, tournons-nous vers Dieu. Je vous propose que nous nous recueillions quelques instants et que nous le prions. Merci notre bon et tendre Père. Pour l'assurance que nous donne ta parole, que tu domines sur les nations de la terre, tu domines sur les événements de la terre, dans ces événements, cette situation si particulière que tu permets, désirons nous laisser persuader que tu n'es pas, toi, dépassé. Qui dira qu'une chose arrive sans que tu l'aies ordonnée ? Seigneur, dans les événements que nous traversons, désirons-nous laisser enseigner, comme ces fils de Corée, comme ce psalmiste, te chercher, entendre ta voix s'adresser à nous et nous parler. Merci de ce que tu es capable de rétablir dans un cœur, dans une conscience, dans une âme, la paix, le repos de Dieu. De ce que, étant justifié par la foi, il est possible ce matin de trouver la paix avec toi, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et lorsque nous entendons ta voix, nous te louons, te bénissons de ce que tu es fidèle et juste pour recevoir, pour purifier de tout péché ceux qui se confient en toi. Et quel bonheur, quel repos pour l'âme qui trouve en toi le pardon des péchés, la rémission des péchés, selon la richesse de ta grâce. Merci de ce que, en lui, en Christ, tu ne nous imputes pas notre iniquité. Tu ouvres à celui qui se confie en toi la porte du ciel. Tu donnes une espérance vivante. Dès à présent, tu donnes ton repos. Te prions pour que ce matin, plusieurs entrent dans ton repos. Te prions pour que quelques-uns reviennent dans ton repos. Oui, tu es, Seigneur, un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Te prions, Seigneur, pour que tu nous attires jusqu'à toi et que nous expérimentions en toi cette délivrance. Amen. Amen. Voilà, je vous propose que, sans tarder, nous